Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Christophe Jubien pour vous accueillir sur La Route Inconnue, votre magazine entièrement dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. Au menu du jour, deux interviews, deux éclairages sur deux livres qui ont été publiés dernièrement et publiés par qui? Par nos chers chroniqueurs Louis Dubos et Jacques Morin, deux figures de la poésie française de la seconde moitié du XXe siècle et du premier quart du siècle suivant. Vous retrouverez, rassurez-vous, en seconde partie d'émission, les chroniques de Claude Verset, Patrick Jocquel et Cécile Guivarch, rien que des gens bien. Pour commencer cette émission, un coup de projecteur sur Le Diogène ou la tête entre les genoux de Louis Dubos, publié à La Mèche Lente. Quel joli nom pour une maison d'édition. Ce livre absolument délicieux nous conduit dans votre potager, Louis, mais attention, le prof de philo n'est pas loin, tant il est vrai que le jardin, c'est la philosophie rendue visible, dites-vous. Cette phrase qui n'est pas de moi, mais d'Éric Orsenna, vous l'avez reproduite en page 3. Je suppose que c'est pas anodin.
C'est pas anodin du tout. De même que les trois citations, enfin les trois citations reproduites en exergue du livre là, celle d'Aragon qui parle de, qui dit que le jardin c'est deux syllabes qui rendent un peu égaré, un peu bizarre. Et puis la citation de Vialatte là
J'allais y venir, oui.
qui parle de l'insolite et qui fait toute une petite série pour aboutir pour finir à dire non parce que c'est un abécédaire le
C'est un
livre hein.
abécédaire, tout à fait.
Donc Vialatte parle de l'abécédaire, l'abécédaire c'est l'ordre, l'ordre c'est le désordre, etc. Et il aboutit au bout de la phrase, l'insolite c'est la poésie. Donc finalement ces trois citations résument assez bien, disons, le projet du livre. Hein, il s'agit d'un jardinier qui jardine, mais un vrai quoi, pas par internet. Hein. Ensuite, effectivement, le jardin c'est peut-être aussi un lieu où on réfléchit, on rêve, on refait le monde à sa façon, tout en faisant le petit monde du jardin, finalement, parce que le jardin, c'est une sorte de microcosme où on rencontre les mêmes problèmes que dans le grand monde, quoi. Et puis, ma foi, j'ai pas oublié non plus que j'avais quand même quelques affinités avec la poésie, même si le livre lui-même n'est pas un livre de poèmes. Il n'y a pas que des poèmes dedans.
Non, mais vraiment, on est quand même dans un monde qui est poétique. On franchit le seuil du jardin, pour paraphraser André Ardelais. Alors, votre jardin est un potager, pas un jardin d'agrément, car, dites-vous, la lutte des classes traverse le jardin et que le potager demeure un jardin ouvrier.
Et oui, ça c'est la leçon que j'ai tirée de mon père d'abord, hein, et de mes ancêtres évidemment, qui étaient des paysans. Et comme je le rappelle dans un des textes, ben, c'est un des textes liminaires à propos du jardin précisément, je rappelle que dans ma famille, on vivait à la campagne, il y avait le potager qui était le domaine de l'époux, hein, de l'agriculteur. Autrement dit, c'était le prolongement un petit peu des champs et des terres. Tandis que devant la maison, là où on recevait les gens, la famille, les amis, etc., c'était le jardin de l'épouse,
De la bourgeoise, dites-vous.
de la bourgeoise, oui. Donc je jouais un peu là-dessus pour dire que finalement, il y a effectivement quelque chose comme une certaine lutte des classes qui traverse l'activité jardinière. Et ça, je le constate aussi en Vendée, par exemple, où en Vendée, vous avez beaucoup de logis bourgeois, de châteaux, qui ont des parcs et des jardins assez extraordinaires. Bon, par exemple, William Christie, qui est célèbre comme
Ah oui.
chef d'orchestre, il en a un très beau, pas très loin de chez moi, là. Eh bien, la plupart de ces gens qui s'occupent de ces jardins-là, c'est de la petite noblesse, c'est des bourgeois, entre guillemets, c'est des gens qui ont fait fortune et qui se sont retrouvés en Vendée et qui s'occupent essentiellement comment dirais-je, de faire quelque chose de beau et d'esthétique. De beau et d'esthétique. Ils travaillent avec des gants, eux, parce que les feuilles s'attachent en verre, la terre c'est sale, etc. Donc je me moque un peu d'eux. Et en revanche, moi, je suis ancré dans un potager, là où il faut se baisser pour travailler la terre, et avec l'âge, la terre est de plus en plus basse.
Alors, dans votre livre, qui est vraiment délicieusement écrit, on croise des philosophes, donc Diogène, bien entendu, Diderot, Pythagore, plus près de nous, Gilles Deleuze, mais on croise aussi des poètes, Lorca, Max Jacob, l'ami Yves Barré, le trop oublié Paul Cholot, le grand René Char, mais aussi, ben oui, on croise votre grand-père, votre grand-mère qui est distributrice de taloches, mais aussi vos petits-enfants, Lilian et Louane. Hein. Il y a vraiment de la place sur ce petit coin de terre.
Ah oui, bien sûr, tout le monde se réunit dans l'enclos, hein.
Ouais.
C'est un enclos qui, comme le soulignait Lucien Sewell dans la préface d'un des extraits que j'avais publié de Guerre au carnet du dessin de lune, sous le titre de Diogène au potager, Lucien Sewell avait fait une petite préface où il disait justement que l'enclos n'est jamais clos pour un jardinier. Hein, on est chez soi, entre guillemets, hein, dans le jardin, mais c'est toujours ouvert au monde. C'est toujours ouvert au monde, ça veut dire que les grands courants affectifs, philosophiques, politiques, économiques, etc., du monde traversent aussi le jardin.
Ouais.
Et le jardinier s'en empare de la même manière qu'il s'empare d'un plant de tomate pour le repiquer. Mais il le repique à sa façon, avec des mots. C'est ce que je fais, moi.
Alors, on pourrait penser donc que cette incursion potagère est prétexte à philosopher, ce qui est le cas d'ailleurs, hein, mais cependant il y a aussi beaucoup question de légumes, de semences et de mauvaises herbes, pas si mauvaises que ça d'ailleurs, je le précise tout de suite. Vous avez une vraie science potagère qui, semble-t-il, plonge ses racines dans votre enfance bourguignonne.
Enfin, j'ai une science, c'est beaucoup dire, hein, disons que j'ai des connaissances. Alors, j'ai des connaissances qui, d'une part, m'ont été transmises par mon père, parce que c'est mon père qui m'a initié au jardinage. J'étais tout petit, il m'avait fait un carré dans son grand jardin, à lui, où j'étais maître à bord déjà. C'est aussi mon passé, parce que d'enseignant en lycée agricole, j'ai quand même enseigné 11 ans au ministère de l'Agriculture comme détaché de l'éducation nationale. J'enseignais pas évidemment les sciences agronomiques, mais j'enseignais les lettres et la philo. Mais j'étais en contact permanent avec à la fois des collègues qui enseignaient ces sciences-là, et puis mes élèves aussi qui les apprenaient. Et le troisième point, c'est aussi ma grande curiosité, alors ça, c'est en tant que philosophe un peu contemporain, de tout ce courant écologique du point de vue philosophique. Davantage que politique, l'écologisme m'emmerde un peu, parce que c'est souvent l'affaire de certains bobos qui ne savent pas distinguer, disons, un poireau d'un artichaut, par exemple. J'exagère un peu, mais c'est tout juste un peu ça. Et par exemple, quelqu'un comme Pierre Rabhi, pour moi, est un philosophe du 21e siècle.
Oui.
Hein?
Alors, depuis le temps, moi, que je fais cette émission et que je croise des poètes, à Rochefort-sur-Loire, à Durcey dans l'Orne, voire Place Saint-Sulpice à Paris, moi, je mesure à quel point le jardin tient une place importante dans l'imaginaire des poètes. Tout à l'heure, je parlais d'André Ardelais et de son Seuil du jardin. Franchir le seuil du jardin, c'est souvent pénétrer dans un autre monde, d'une certaine manière.
Oui, il y a tout un imaginaire du jardin, d'ailleurs, que j'exploite beaucoup aussi dans mes textes. Hein.
Oui.
Certes, ça reste très concret ce que je raconte et les gens qui liront mon livre peuvent tout à fait s'inspirer des conseils techniques que je donne ou bien de la manière de faire les semences ou bien même quelques recettes de cuisine. C'est très concret. Mais en même temps, il y a tout un imaginaire, plus ou moins évoqué aussi, c'est le fameux paradis perdu, quoi. Enfin, le paradis perdu
Ouais.
était un jardin.
C'est un jardin, tout à
C'était un
fait.
jardin et ça, c'est profondément ancré dans l'inconscient collectif, je crois. Et on voudrait retrouver ce jardin perdu. Bon, les psychanalystes feront peut-être comment dirais-je, le ventre de la mer, c'est peut-être le jardin perdu, enfin je sais pas. Il faut laisser ça aux spécialistes. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, comment dire, de dépassé, de suranné. Hein. C'est très présent aujourd'hui. Hein. Bien sûr, à cause aussi de ce qui se passe sur notre planète.
Bien
Hein.
sûr, bien
Bien
évidemment.
sûr. Mais bon, moi je pense avoir deux, trois petites bricoles à dire sur la question. Et je m'efforce de dire uniquement ce que je peux connaître, hein. Je ne vais pas spéculer sur le reste.
Alors, moi, un des plaisirs de ce très joli petit bouquin, eh bien, c'est On va dire les délices d'une érudition qui n'est jamais pédante et qui est toujours gourmande. Je pense notamment aux lignes, mais je les lirai tout à l'heure, page 38, qui sont dédiées au coin. On croise même Nietzsche, figurez-vous.
Oui. Ah ben ça, c'est un vers de Pablo Neruda.
Il est très beau, oui.
C'est dans l'île noire, ça.
Oui.
Pablo Neruda parlant de sa bibliothèque et disant qu'il mettait des coins comme serre-livre, hein, pour tenir les livres, et il disait Neruda, Nietzsche sortait le coin. Ça, c'est
Superbe.
un vers extraordinaire, quand même. Hein.
Ouais.
Ça réconcilie avec la philo, ça, faut le dire aux futurs bacheliers.
Alors donc, érudition tranquille, mais parfois quand même un coup de colère contre la marchandisation du monde, les glyphosates, le racisme d'un voisin de jardin hein, aussi.
Ah oui, mais ça. Mais c'est le racisme ordinaire,
c'est le racisme.
C'est un racisme pas méchant, c'est un
Oui.
racisme que je qualifierais de con.
Bêta, quoi. Oui,
Bon, c'est-à-dire un racisme naturel.
Oui.
La connerie, bon, c'est les racistes naturellement, quoi.
C'est universel.
Oui.
Parce que je veux dire, c'est que l'homme du jardin, l'homme au jardin plutôt d'ailleurs, n'est pas coupé du monde, hein.
Absolument pas.
Ouais.
Absolument pas.
Ouais.
Absolument pas.
Merci beaucoup, Louis. Je rappelle le titre de votre livre Diogène ou la tête entre les genoux, donc de Louis Dubos, publié aux éditions La Mèche Lente, à mastiquer sans modération, et c'est encore mieux avec un verre de Beaujolais si vous êtes plutôt rouge. Si
Oui.
vous en passez pour le blanc, un petit Saint-Véran, ça vous irait?
Par exemple, c'est très bien. Le Saint-Véran, c'est excellent, oui.
Louis, merci beaucoup, et maintenant, place au texte. Labourache. Si la vigilance de la binette chavire dans la distraction à l'époque où les jeunes pousses se disséminent en abondance sur les plates-bandes, allées, contre-allées, planches de semis, rayons de patates, enfilades de petits pois et autres cultures de printemps, labourache donc transforme le potager en cité des étoiles, comme si le ciel était tombé sur la terre. Et chaque fois que l'âme jardinière traîne de la pesanteur, un lendemain à gueule de bois, un jour où l'on n'en finit plus de se sentir trop vieux ou tout bonnement à l'heure de la sieste, le jardinier ne dédaigne pas de virer à l'astronaute et de laisser la tête dans les étoiles. Quand il se réveille, le teint frais et l'œil dispos, comme sous l'effet d'un élixir de jouvence, seules quelques petites étoiles bleues dans les cheveux emmêlés trahissent les vertus insoupçonnées de la bourrache. En hiver, le jardinier, à l'exemple du grand-père de son épouse, qui vécut plus que nonagénaire, obtient le même résultat avec une tisane de fleurs et de jeunes feuilles séchées, allongées toutefois d'une large rasade d'eau-de-vie de prune. La bourrache. Si la vigilance de la binette chavire dans la distraction à l'époque où les jeunes pousses se disséminent en abondance sur les plates-bandes, allées, contre-allées, planches de semis, rayons de patates, enfilades de petits pois et autres cultures de printemps, la bourrache, donc, transforme le potager en cité des étoiles, comme si le ciel était tombé sur la terre. Et chaque fois que l'âme jardinière traîne de la pesanteur, un lendemain à gueule de bois, un jour où l'on n'en finit plus de se sentir trop vieux, ou tout bonnement à l'heure de la sieste, le jardinier ne dédaigne pas de virer à l'astronaute et de laisser la tête dans les étoiles. Quand il se réveille, le teint frais et l'œil dispos, comme sous l'effet d'un élixir de jouvence, seules quelques petites étoiles bleues dans les cheveux emmêlés trahissent les vertus insoupçonnées de la bourrache. En hiver, le jardinier, à l'exemple du grand-père de son épouse, qui vécut plus que nonagénaire, obtient le même résultat avec une tisane de fleurs et de jeunes feuilles séchées, allongée toutefois d'une large rasade d'eau de vie de prune. Le coin se présente d'emblée comme le parangon d'un érotisme tranquille. Il offre à l'œil qui le convoite et à la main qui le caresse l'assise piriforme
d'un sein duveteux, lourd et ferme. Et son odeur doucement entêtante empoigne les fantasmes et met en branle la machine désirante, Gilles Deleuze. Alors le plaisir irradie tous les sens lorsque, accommodé comme il se doit, il porte en bouche gelée, confiture, pâte de fruits, à l'exemple du jeune Gargantua et de ses amis, parachevant leur repas par quelques confections de cotonia. De l'abbaye de Thélème à l'île Noire, où des coins servent de presse-livres dans la bibliothèque de Pablo Neruda, le plaisir infuse l'intelligence et met la pensée au parfum. Nietzsche sentait le coin. Comment ne pas être philosophe ? Le concombre est un proche parent du cornichon. Si ce dernier offre à quelques penseurs existentialistes un support métaphysique, le premier relève davantage de la pataphysique lorsqu'il se fait concombre masqué. Et à notre époque opaque, c'est à n'en pas douter, une aventure peu commune que de glabougner dans le non-être en compagnie de la cucurbitacée philosophe célébrée par Nikita Mandrika. Le concombre qui tue, un fameux et très mauvais polar publié en fin de printemps il y a quelques années. Des milliers de tonnes de légumes partis d'Espagne, transitant par Paris puis les Pays-Bas, on ne sait trop pourquoi ou pour quel traficotage, avant de se retrouver du côté de Hambourg, sur les étals des supermarchés, ont terminé leur périple transeuropéen au mieux dans les bacs à compost, au pire arrosés de gazole dans les décharges publiques. Tout ça pour ça, avant que les experts ne disculpent le concombre de l'infâme forfait. En revanche, les présentateurs des télévisions, ah, il fallait voir les photogéniques trombines de circonstances, à la fois lugubres et gourmandes, des Poujari, Ferraker, Druda et confrères et consoeurs et consorts, ont propagé chez les consommateurs une panique sans précédent, jeté l'opprobre sur l'innocente cucurbitacée, nourri la rumeur pousse au crime et provoqué collatéralement la faillite et pour quelques-uns le suicide de centaines de maraîchers désemparés. Épilogue du polar, le concombre a arraché le masque des serial killers médiatiques qui, bien entendu, ni responsables ni coupables, se sont empressés de passer sans plus attendre à d'autres sujets non moins estimables. Les petits pois, cuisinés avec de petites carottes nouvelles, les premiers haricots verts, quelques oignons blancs tout frais, un bouquet de persil, ils donnent de la rondeur à la jardinière, ce qui n'est pas pour déplaire aux jardiniers. Les petits pois avec un seul grain, plaisantait Coluche, tu ouvres un supermarché en Éthiopie. Les Restos du Cœur n'ont jamais compté autant de clients qu'en cet hiver qui n'en finit pas. Petit merlot bien nourri, ne tire pas la gueule devant ton assiettée de mange-tout. Un petit pois d'une espèce à grains ridés, le sénateur, arrange le potager en annexe du jardin qui jouxte le palais du Luxembourg. D'emblée, il requiert un palissage minimal, sans quoi il flageole fâcheusement de la guibole. Comparable aux vieilles tiges d'Hécatie qui font la sieste sous les ors de la République, ces grosses légumes de jadis et naguère, qui se touillent et chatouillent avec des airs d'importance, mais dont la biodiversité citoyenne ne doit attendre, hélas, que minestrone et ratatouille fadas. À quand un référendum pour écosser la Constitution ? Voilà, c'était quelques extraits du très, très chouette livre de Louis Dubos, Diogène ou la tête entre les genoux, publié aux éditions La Mèche Lente. La Mèche Lente, c'est une maison d'édition qui se trouve, si je ne m'abuse, à la crèche. C'est dans les Deux-Sèvres. Voilà, vous pourrez en tout cas évidemment avoir tous les renseignements souhaitables sur le livre et sur la maison d'édition sur Internet en tapant La Mechelante sur votre moteur de recherche. On laisse passer un peu de musique et on retrouve notre ami Jacques Morin. Après Louis Dubos, un autre chroniqueur de la route a connu sur la sellette, Jacques Mau pour son « À peine 6 semaines », cahier des passerelles numéro 41. Avant toute chose, Jacques, deux mots peut-être sur ce cahier des passerelles que je ne connaissais pas. Je l'avoue volontiers.
Oui, alors le cahier des passerelles, c'est une sorte de revue-recueil. C'est à la limite des deux choses. Donc, ça s'appelle cahier des passerelles parce qu'il y a des passerelles entre... des auteurs, des poètes, on va dire, qui écrivent, et puis des illustrateurs, des graveurs, des peintres, etc., qui vont donc illustrer chaque recueil. Ouais. Donc c'est ce qui s'est passé.
Alors donc des poèmes de Jacques Mau avec des linogravures d'Angèle Spérius qui sont très, très belles. C'est vous qui avez voulu travailler avec Angèle Spérius, Jacques, vous la connaissiez ?
Non, non, c'est de nouveau on va dire l'éditeur, hein, ouais. Le revuiste, puisque les deux mots peuvent convenir, qui s'est occupé de nous mettre en relation. C'est-à-dire que, bon, j'ai envoyé des textes, bon, il y a ces 10 pages, hein, une dizaine de poèmes, et puis il a proposé ces pages à être illustrées par quelqu'un qui fait de la gravure, que je connaissais pas du tout, et puis c'est vrai que ça c'est très très bien, c'est très bien sorti. Ouais. J'ajoute comme ça que le cahier de la passerelle sort aussi des portfolios magnifiques, en plus de la revue, on va dire, ordinaire.
Quoi. D'accord. Alors, une petite chose, petite remarque préliminaire. C'est Claude Verset, je crois, qui me l'a suggéré sur le site de la revue des charges que vous dirigez, parce que jusqu'à présent, vous signez vos recueils de votre nom complet, Jacques Morin, et le pseudo Jacques Mau était réservé à vos activités de revuiste. Alors, pourquoi cette entorse à la coutume ?
Eh bien, je n'en suis pas responsable. Finalement, c'est l'éditeur, toujours le même, qui... a cru que c'était mon nom de complet, enfin c'est mon nom d'auteur en quelque sorte, et qui, enfin peut-être contaminé par la revue dans laquelle je signe Jacques Mau, mes articles en général, ou mes critiques, etc. Et donc qui a cru bon de mettre ce nom-là en titre, enfin au-dessus du titre, ce qui fait que j'étais le premier surpris en recevant les exemplaires, en voyant Jacques Mau, je dis ah bon. Et c'est vrai qu'on s'est pas mis du tout au point. Enfin voilà, c'est une sorte de malentendu, mais enfin qui est plutôt rigolo. Bon, enfin sur le coup j'étais un peu surpris évidemment, mais après ça bon, pourquoi pas. Bon, et disons que c'est pas du tout volontaire de ma part. Voilà.
D'accord. Donc le titre, hein, à peine 6 semaines, fait référence à quelle période ? 6 semaines.
Alors c'est bon, tout à fait, c'est l'été, hein, ça c'est clair.
Ouais, ça on le
sent.
Et puis
ouais. Disons que bon, c'est un clin d'œil par rapport à un recueil que j'avais sorti précédemment, il y a pas très très longtemps, à l'atelier de Groutel, qui s'appelait 3 saisons et demie. Donc j'avais pas vraiment terminé l'année, il me restait un bout d'été que j'avais pas fait, et donc là c'est un peu la suite, de nouveau, bon, comme ça, un peu un jeu de mots, quelque part, pour terminer un peu le tout, et voilà, donc j'ai proposé ces textes-là à l'éditeur en question, et bon, comme ça lui a contenu, voilà, on a fait l'affaire.
Ouais. Alors donc effectivement, vous l'avez dit, on est en été dans ce recueil, c'est la période la plus propice à l'épanouissement corporel, des sens. Hein. Le simple fait de se dévêtir, par exemple, nous rapproche de la nature. Et en vous lisant, on sent à quel point cette période vous fait du bien. Et je me dis peut-être à quel point vous devez l'attendre.
Oui, alors bon, alors c'est vrai, mais je pense que l'été, tout le monde l'attend un peu, surtout qu'on a connu enfin, des hivers plus ou moins rigoureux. Et donc c'est toujours un peu par rapport à la nature. Bon, c'est le moment comme ça où elle est dans son plein rayonnement. Mais d'une certaine façon, puisque là, ce recueil est en continuité du précédent 3 saisons et demie, oui. C'est un peu toujours par rapport au sport, le fait d'être dehors, de pouvoir profiter un petit peu de l'air, de l'espace. C'est un peu dans cette continuité-là, avec le côté peut-être plus sensuel, en effet, de l'été, où on est davantage même en contact presque corporel et tactile avec la nature autour.
Oui, parce que si j'ose dire, et pour vous paraphraser, pour ainsi dire, vous écrivez souvent avec un crayon noir. Oui. Et là, c'est un peu plus bleu, on va dire.
Oui, ah oui, tout à fait. Ça, c'est un peu le monde d'outre-face. Mais c'est vrai que c'est une veine. Enfin, je m'en suis un peu oui. rendu compte finalement en suivant le questionnaire ici. C'est une veine que j'aime bien quand. Enfin, il m'arrive très souvent de courir le matin, donc et de vraiment en communion avec la nature, et c'est un moment comme ça de respiration, de souffle, et j'écris souvent en revenant, il m'arrive d'écrire des textes, et donc qui sont dans cette veine-là.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a par exemple deux Jacques Morin, parce que c'est pas abusif ce que je vais dire, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir, d'un côté l'introspectif qui est assez anxieux, assez angoissé, et de l'autre justement le coureur à pied, l'homme dans la nature, et on sent combien le premier a besoin du deuxième pour ne pas chanceler. J'ai l'impression que c'est important de votre...
Oui, oui. Tout à fait. Bon, mais je pense qu'il y a toujours un peu cette dichotomie, bon, le mot est un peu prétentieux, enfin, cette opposition entre les deux, ouais. entre celui qui essaye de communier avec l'extérieur, avec la nature, et puis bon, celui qui est plus rentré, qui rentre un peu à l'intérieur de lui-même, et qui... est plus obscur quelque part et plus difficile d'ailleurs à pénétrer et bon qui m'intéresse également, mais c'est vrai que le côté extérieur me permet un petit peu de souffler et d'être plus léger, plus simple aussi.
Ouais. Et il a toujours existé d'ailleurs, puisque je me souviens que la première fois que je vous ai interviewé, c'était pour les poèmes sportifs en puisaient fort.
Exactement, donc cette veine-là est assez ancienne ouais. finalement, oui tout à fait, c'est juste.
Beaucoup de sensualité dans cette suite de poèmes, mais aussi un lâcher-prise salvateur, et parfois même une sorte d'harmonie entre l'homme et la nature, et une harmonie entre l'homme et la nature, pas une sorte, presque même une épiphanie. J'en veux pour preuve les derniers vers du recueil, « Joie absolue, on est immortel un instant ».
Oui, alors c'est vrai que... ça vient tout, enfin, un peu de ce que je viens de dire précédemment, ouais. mais c'est surtout un petit peu cette joie absolue, c'est un peu, je pense, par rapport au matin. Enfin, je pense que le matin, quand c'est le lever du soleil, quand c'est le jour qui s'ouvre, c'est vraiment un moment comme ça où on a l'impression qu'on est, bon, qu'on est impérissable, qu'on est invincible, et c'est ça un peu que je ressens, d'autant plus quand, bon, bah, y a une sorte d'effort physique qui se fait, qui permet un petit peu d'être, semble-t-il, plus léger que le restant de la journée.
Ouais. Guilvic le disait le matin, je crois, dans un poème, alors je l'ai peut-être pas très bien en tête, mais le matin ne paraît pas devoir déboucher sur midi, il promet autre chose. C'est un peu ça que vous ressentez, d'une
certaine
manière.
Oui, un peu ça, c'est tout ouais. à fait. D'ailleurs, dans un autre texte, là, parce que justement, cette question m'a fait penser à un autre texte, je dis comme ça, c'était dans Le bord du paysage, qui ouais. aussi, enfin, la même chose, un poème d'Yonne, je dis comme ça, on est invincible au moins jusqu'à midi. Bon, il y a une petite nuance ironique, mais c'est ça. Bon, le matin, il y a un côté comme ça, on a l'impression qu'on va durer éternellement.
Ouais. Mais la joie absolue, c'est quand même, c'est pas rien. C'est vraiment ainsi que vous l'avez prouvé.
Oui, enfin bon, enfin, faut peut-être pas abuser non plus, mais c'est vrai que j'ai un petit peu cette sensation d'apesanteur, oui. de liberté, oui, de durabilité plus longue, mais bon, enfin, ça ne dure que l'espace d'une course, mais oui. ça fait rien. C'est une sensation que j'ai à ce moment-là, oui.
Ouais. Donc vous écrivez « On est immortel », donc certes un instant hein, seulement, mais on ne peut pas s'empêcher de penser « Un jour peut-être, ce sera pour toujours ». Est-ce qu'il vous arrive de le croire?
Non, enfin bon, là, ça va nous opposer peut-être éventuellement.
Non,
mais c'est vrai que bon, non, j'y crois pas plus que ça. C'est pour ça d'ailleurs que je le sens d'autant mieux dans l'instant ouais. que je ne sens que c'est évidemment quelque chose qui ne va pas durer. Mais et donc je pense que la sensation est d'autant plus forte, pas forcément, mais d'autant plus intense que je sens qu'elle va être éphémère.
Ouais. À peine 6 semaines, cahier des passerelles numéro 41, qu'on peut évidemment aller chercher chez l'auteur. Les cahiers des passerelles, c'est 3 rue des Fouasses, 63 170 Aubière. Il me reste 30 petites secondes, Jacques Mau. Un autre livre sur le feu en ce moment, des poèmes sur le feu?
Oui, oui. Alors bon, j'ai même quelque chose qui serait plutôt dans la lignée, enfin plutôt noir, mais qui est prêt. Mais là, j'attends, bon, enfin un éditeur, enfin je... J'ai un éditeur en vue, mais je ne sais pas si lui-même sera OK pour le prendre. Ben donc, j'attends un petit peu son feu vert. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Morin. Place au texte maintenant. Je vais lire à nos auditeurs quelques extraits de ce recueil publié au Cahier des Passerelles. Merci.
Au revoir, Christophe.
Au revoir.
Le soleil darde ses raies de feu. Je bombe le torse, bouclier pauvre. Dans cette lisse du jour se renversent les mannequins, dominos sans point ni cible. Vent chaud, il m'aspire. Vent froid, il me plaque, me retient par tous les pores. Vent chaud, il m'accompagne, me transporte, me soulève, il cuit les poumons. Vent froid, il me terrasse, me réduit, m'écrase, il glace le ventre. Vent chaud, c'est lisse et doux. Vent froid, c'est rugueux, râpeux. Ventre besace, ventre bissac. Les champs pique jusqu'à l'horizon. Le souffle est régulier, synchrone avec la foulée. La respiration fait exister le monde. Poumons soufflaient, l'air chante dans le corps. La gorge résonne avec les pieds, rythme poitrine. Jusqu'à l'horizon fauché, pique les champs. La rivière glisse sur les épaules, elle miroite, liquide, joue de ses écailles. Ohé l'alligator, les yeux dehors. J'ai mis ma peau de serpent, je mue et nage entre deux courants d'eau d'air électrique, circuit court. La rivière éteint la colère et passe sous le corps délavé. Tout du long le cri des enfants et la rumeur du soir. Été, tout en ambiguïté, entre saison dorée et passé absolu, le parfait. Juste en haut du balancement du pendule indécis et des aiguilles qui tricotent le temps, juste après le zénith et le plus long jour, tout juste. Je cueille au passage les parfums d'herbes coupées, de foin fauché, les odeurs de chaleur moite, de terre humide après la pluie. Je respire le jour et je sens la nature à plein corps. Les ciels gris de l'été me rappellent les cieux de ma banlieue, adolescence mélancolique où je doutais du sens de la vie. Les paysages ne deviennent riches et puissants qu'avec les saisons qui tournent et le retour des yeux. Ils s'habituent à notre marche. La pluie d'orage douche les certitudes, elle lave malheur, désespoir et regret, petite mousson d'un soir. Le corps est purifié pour un jour, pour une heure. On repart nu sans viatique jusqu'au prochain nuage qui bourgeonne dans la nuit. Les crucifiés jalonnent la route. Je remonte l'antiquité en vélo. Tous mes rêves, mes songeries se superposent, mes espoirs et mes illusions aussi. Je travestis la réalité, je parle et j'invente, j'écris en l'air. les feuilles des arbres clignotent. Quand le soleil gouverne, les forêts adoubées miroitent. Paysage splendide sous la lumière piquée, la nature rayonne, on touche la beauté des yeux. On est pour toujours rédimé dans la plénitude du spectacle offert. Joie absolue, on est immortel un instant. À peine 6 semaines, de Jacquemot, illustré par Angèle Spérius, publié aux éditions Cahier des Passerelles, dont je rappelle l'adresse, 3 rue des Fouasses, Foi2SES, 63 170, Aubière. Sans plus tarder, je vous propose de rejoindre à présent Claude Verset, poète, l'un des piliers de la Revue des Charges, qui nous fait part de son coup de cœur mensuel.
Bonjour à tous. Bonjour Christophe. À l'honneur aujourd'hui, Gilles Plasy, poète à qui l'on doit déjà en particulier les poèmes de son livre « Paul Gauguin, l'insurgé solaire » que j'avais fort apprécié, mais aussi Gilles Plasy, éditeur de La Sirène étoilée, petite structure souvent bien inspirée. Et cette fois, il nous propose 100 pages de prose de haute intensité dont le lecteur sort ébloui. Mais tout autant, fiction fragile du désir, car c'est le titre de ces 100 pages aux éditions Parabuste, fait le désespoir du critique qui cherche à rendre compte de ses prestiges. Comment, avec les faibles mots du commentaire, faire écho à ces pages sans anecdote et sans narration, toute d'exaltation, dans une totale confiance de la parole, sous la dictée du désir dont la main dans la nuit attise la langue. Citation. On ne peut qu'être séduit par l'unité de ton et de forme, reconduit tout au long des 6 sections qui constituent l'ouvrage, soit pour chaque page, un pavé de prose écrit dans la continuité, c'est-à-dire sans ponctuation jusqu'au point final, ni majuscule hors de la majuscule initiale. Prose dans laquelle le lecteur doit retrouver de lui-même le rythme et les respirations nécessaires à la scansion. Les lignes conclusive du premier poème, offre la clé. Dans l'air du temps, dans l'innocence du volcan, dans l'innocence de l'océan, dans l'innocence du champ et la quadrature du globe, une porte s'ouvre dans le lit des présages, l'énigme, notre rituel. À présent, un exemple, dans son intégralité, de ces proses où bat le pavillon des mots dans un cœur irradié. Citation aussi. Je lis. Quel talisman caches-tu dans ta chemise déchirée pour que dans ton sommeil l'amour voyage? Ta main de scribe porte la parole des prophètes en lambeaux. L'étoile de souvenir brille au-dessus des chiens de la colère. Ton corps est transpercé d'un horizon vertical. Des oiseaux tristes volent en vain vers nul paradis. Est-ce la nuit encore, derrière l'étoile éteinte? Est-ce le cri à jamais tendu sur les herbes trop foulées? Est-ce la mémoire qui heurte le ciel quand le démon de la soif sèche les langues? L'orchidée blanche surnage sur l'eau noire, orpheline des baisers du vent. Parmi les branchies haletantes des poissons morts et des âmes passagères. Hante la nuit. Le monde sourit. La mer est complaisante. La forêt familière. Un coq s'échappe des sentes froides de l'hiver. Trouve l'infini des tropiques dans le lit de la fortune. La parole ouvre l'espace. Heure nouvelle. Splendeur des étoiles. Un double entre les lèvres de la nuit. Poudre d'or et la poussière, filigrane indéchiffrable au pied de la tour orpheline. Nous guettons une faveur, ainsi nantie de phrases ciselées. Oui, une telle poésie tranche sur le gros et même le meilleur de la production actuelle. Elle rappelle, une fois de plus, combien les voies de l'art sont multiples, divergents selon les créateurs sur des embranchements divers. Au regard de l'histoire de la poésie, il n'est pas déraisonnable de saluer la poésie de fiction fragile du désir comme une résurgence. Elle renoue avec la tradition issue du surréalisme, retrouve ce sens de la merveille que les poètes autour d'André Breton ont porté au plus haut. Cette opacité lumineuse, si caractéristique d'un René Char, auquel Gilles Plasy, auteur en 2003 de René Char, Fiction sublime, dont le titre est si significativement proche de celui de l'ouvrage qui nous occupe aujourd'hui, donc à qui René Char doit beaucoup, et lui-même le reconnaît. Ressaisissant le fil rouge de cette aventure inspirée, et preuve à l'appui, toujours inspirante, au coup de coude avec ses poètes constitués à la marge du surréalisme, tels Maurice Blanchard ou Jean-Pierre Dupré, auxquels empruntent les épigraphes du livre, Gilles Plasy puise à pleine main dans la veine fabuleuse, inépuisable, convoquant pour appuyer sa démarche poètes et figures poétiques. Les Argonautes, Alice et Ariane, en cette quête jamais résolue de l'heure du jour, qui jette Rimbaud en Abyssinie et Gauguin à Tahiti. Fiction fragile du désir est publiée par les éditions Tarabuste, rue du Fort, 36170, Saint-Benoît-du-Chaux. 110 pages qui valent 13 euros. Une belle lecture qui viendra vous tenir compagnie jusqu'à ce que je vous retrouve, dans un mois, selon toute prévision. Allez, à bientôt.
À bientôt, cher Claude. Ce sera d'ailleurs pour la dernière émission de la saison. Mais évidemment, je vous le dis tout de suite, je vous l'affirme, je vous rassure, si vous êtes en tout cas un auditeur fidèle de notre émission consacrée à la poésie vivante, La Route Inconnue reviendra en septembre prochain. Bien évidemment, je vous propose là de vous lire, deux poèmes extraits d'un petit recueil publié chez Edit Livre de Véronique Guillot. Véronique Guillot, c'est une chartraine que j'ai le plaisir de connaître et dont c'est le tout premier recueil. Je voulais vous faire découvrir cette voie qui commence à s'ouvrir, tout simplement, avec un poème intitulé « Ancillaire ». Dans la demeure cossue, de jolies pensées, encaustiquées, s'en vont fureter le long du mobilier servile, tels des boutons estampillés sur la livrée d'un valet de pied. Elles cherchent le secret camouflé des amours ancillaires d'un jour, devenues honteuses et cachées. Dans la demeure cossue, on a épousseté les rêves et fait taire les lèvres, astiqué joliment le passé. Et puis, ce poème intitulé « Angoisse », c'est d'abord un pincement léger et imprécis, comme un miaulement discret, presque feutré au creux de l'épigastre, un son brouillé et indistinct, puis amplifié par le va-et-vient d'un archer, l'archer de mes pensées, de mes attentes, de mes regrets. Mon angoisse n'est plus terrée, cachée, assoupie. Mon angoisse sourde et belle attend sa mélodie. Voilà, c'est extrait donc de « Plaies d'amour suivi de la mal aux rêves et voix étrangères » de Véronique Guillot, dont c'est le tout premier recueil. Je crois que c'est à présent à Cécile Guivarche, notre amie poète et animatrice du site Terraciel, de nous parler du livre qu'elle a choisi.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de « Ça tient à quoi ?» donc un livre de François de Cornière qui est paru au Castor Astral. Ça tient à quoi? Donc, bon, si on s'en tient en fait à un extrait de la citation de Marie Rouanet qui a été choisie en exergue par François de Cornière lui-même, il est dit « Toute œuvre se crée à partir de la mémoire, à partir de la mémoire ». Donc cela donne effectivement un cadre au nouveau recueil de François de Cornière. Donc ce recueil qui s'appelle « Ça tient à quoi ?» Mais qu'est-ce qui tient à quoi? Alors si on poursuit en s'attardant sur la table des matières, on va se dessiner une trame de ce qui tient en fait l'écriture de François de Cornière. Donc à titre vraiment indicatif, et pour inciter à aller constater par vous-même, je vais vous donner quelques titres de chapitres. Donc par exemple, « L'avenir sera du passé », « Mon émotion est toujours là », « Du côté où j'ai un poids », encore un autre titre, « Comme si tout pouvait durer ». Et ce livre de François de Cornière, je préconise de le lire vraiment lentement, justement pour le faire durer, car chaque poème, en même temps que l'auteur s'interroge, pose des jalons sur nos propres questionnements, nous lecteurs. Et aussi, on peut répondre à cette question, à quoi ça tient l'écriture, ou à cette autre, à quoi ça tient la mémoire? Comment écrire ce que je ressens? Est-ce que c'est le souvenir qui fabrique le poème ou le poème qui fabrique le souvenir, écrit François de Cornière? C'est quoi le présent dans un poème? Donc François de Cornière écrit dans un quotidien, mais avec une emprise du passé, avec le poids de la mémoire, avec le temps qui passe, qui s'enfuit et qui ne reviendra plus. Il écrit comment la mémoire se transforme, comment l'émotion crée la mémoire, qu'est-ce qu'on retient du passé, comment une phrase du passé peut continuer d'influencer le quotidien. Donc la langue de François de Cornière, en apparence, elle est simple. Sont rassemblés des instants, des souvenirs. Ils semblent former le canevas d'une vie. Des instants repris sans trop les retoucher, comme il a indiqué d'ailleurs dans le quatrième de couverture. Et cela donne à cette poésie une certaine fluidité, une sympathie qui permettent au lecteur de s'y plonger, comme on aurait pu le faire avec son autre livre qui s'appelle « Nageur du petit matin », paru aussi au Castor Astral. On plonge donc dans ces poèmes et on lit vraiment un quotidien où l'hier et l'aujourd'hui se côtoient sans cesse, avec l'idée que l'avenir fera bientôt partie du passé. Ce livre est conjugué aux trois temps, passé, présent, futur, et évoque de petites choses, telles un avion qui traverse le ciel, ou une phrase restée en mémoire. J'ai l'impression qu'on est dimanche, par exemple. C'est une petite phrase comme ça qui surgit au détour d'un poème, j'ai l'impression qu'on est dimanche. Mais il y a aussi des choses plus graves, par exemple, comme l'évocation d'amis ou de la femme disparue. Il y a des petites choses aussi qui sont anodines, mais qui sont accrochées à la mémoire. Et on voit comment la poésie s'installe et comment les images ont des tonalités puissantes. Le poème souvent débute au passé pour trouver une résonance aujourd'hui ou demain. Et ce demain, d'ailleurs, est à un moment évoqué comme un ailleurs invisible. La famille, les amis traversent le livre. Et François de Cornière n'oublie pas ses amis poètes ou musiciens. Ils apparaissent au coin des poèmes, comme si c'était des liens fraternels qui étaient nécessaires à la poésie de l'auteur. Et un homme aussi traverse le livre. Et je pense qu'il peut s'agir de François de Cornière. Cet homme, souvent dans le livre, il apparaît un homme, des poèmes autour d'un homme. Et ainsi, en fait, c'est les petits blocs d'instants qui s'alignent. Et la nuit, quand il ne dort pas, l'homme joue au Lego avec des morceaux de sa vie. Et si écrire à partir de l'observation des petites choses permettait de revenir à l'essentiel? On sent aussi une grande discrétion chez ce poète qui fuit tous les réseaux sociaux, qui n'aime pas beaucoup lire ses poèmes en public, qui préfère les écrire sur le coin de sa cuisine. En fait, écrire de la poésie sans ce qui fait la poésie. C'est vraiment cela qui le tient. Et les moments pris sur le vif. Être ce nageur du petit matin ou être au volant de son passé. Et finalement, voilà, le lecteur le suit. Je vais vous lire un petit extrait de Carreau invisible. Parfois, l'homme prend des résolutions. Les plus fréquentes sont ne pas regarder la télé, ne pas se servir du portable, ne pas allumer l'ordinateur et bien sûr fuir tous les réseaux sociaux. Dans sa maison du bord de mer, l'homme peut facilement tenir ces résolutions-là. Il préfère aller nager, marcher, pédaler, pêcher, lire, écrire, rêver. Il en tire peut-être une certaine forme de bonheur. Mais quand l'homme se dit « Aujourd'hui, défense d'être étonné », il a du mal à y arriver. C'est un rayon de soleil sur la mer, un oiseau, un bruit, une parole, un morceau d'hier ou d'aujourd'hui. Et ça tape au carreau invisible. C'est pour cela qu'il écrit. Il se demande. C'est une victoire ou un échec, un poème? L'homme prend la résolution de réfléchir à la question. Donc voilà, un livre de François de Cornière paru au Castor Astral et qui s'appelle « Ça tient à quoi ?». Je vous dis à très bientôt.
Vous aurez le plaisir de retrouver Cécile Guivarch dans 4 semaines pour la dernière de la saison. En attendant, je vous propose de nous quitter avec notre ami Patrick Jockel, poète, romancier, éditeur, les éditions de La Pointe Sarenne et également revuiste, la revue trimestrielle Cairn. Je vous laisse dans les mains expertes de Patrick et je vous dis bye bye. On se retrouve dans 15 jours sur la route inconnue.
Je vais vous parler aujourd'hui d'un recueil qui vient de sortir à la Boucherie littéraire. Un recueil d'Emmanuel Campos, c'est le deuxième livre qu'Emmanuel signe chez cet éditeur, et ça s'appelle « Faut bien manger ». C'est un livre tout aussi surprenant que le premier, « Maison poésie domestique », plein de surprises, de vitalité, de rebonds, un livre très joyeux, des poèmes à dire à haute voix. C'est normal pour un auteur qui aime la scène. J'espère bien le voir et l'entendre un de ces jours d'ailleurs. On est à Lyon dans ce livre et la ville vit sa vie tandis que je retourne à mon travail qui sans effort s'abat sur moi, dit le poète. Dans ce lieu de travail, on croise des cadres, jeunes et dynamiques, bien affûtés pour défendre leur beefsteak, même au détriment des autres ou d'eux-mêmes. Des cadres bien encore et tout en harmonie avec leurs besoins vitaux. Des travailleurs en prise aux soucis quotidiens, transport, trajet, chronomètre et la peur de manquer d'argent. Et alors, tu mangeras des pâtes? C'est bon les pâtes? On y croise l'artiste, le poète. Un être moqueur, moqueur de lui-même, moqueur des autres et moqueur du système qui les met en scène. Souvent de maigres publics d'ailleurs. Un livre salutaire qui claque au vent et qui ouvre de nouveaux chemins à cette exploratrice du langage et de l'humain qu'est la poésie. Un extrait par exemple. Vous avez la carte du magasin? Ça dépend. Elle me permettrait de sortir en douce par la porte de service? Pas du tout. Alors non, je ne l'ai pas. De toute façon, elle ne vous aurait pas non plus aidé à terminer ce poème, me dit-elle, en se retournant pour arracher un sac en matière recyclée à 5 centimes d'euros. Voilà. Faut bien manger à la Boucherie littéraire par Emmanuel Campo. Et je terminerai avec mes premières comptines et autres petits poèmes, une anthologie réalisée par Béatrice Libert, avec des images de Luce Guilbeault, c'est aux éditions Couleur Livre. On va retrouver dans ce petit recueil de comptines différents auteurs que l'on connaît bien, comme Jacqueline Held, Jean-Claude Touzeil, Marc Baron, Alain Boudet, Michel Cozem, Luce Guilbeault et bien d'autres encore. C'est un tout petit carré qu'on peut offrir à tous les enfants, mais aussi aux parents et aux enseignants de maternelle ou de primaire. Car ne l'oublions pas, cantonner la comptine au tout petit, c'est méconnaître sa richesse. Et On va commencer avec une petite berceuse de Jacqueline Held. Dors, mon tout petit. Au bout de tes doigts sont 10 coquillages posés près de moi sur le bord du drap. Dors, mon poisson d'or, dors, mon vif argent, ta main gauche est d'or, ta droite est d'argent. Un jour tu seras grand, un jour je serai vieille. Dors, prends tout ton temps pendant que je veille. Une autre de Jean-Claude Touzeil. Dans le bus, en passant, Anubis crut bien voir un ibis qui croquait un biscuit en haut d'un hibiscus. C'est pas sûr. Et je voudrais finir avec un dernier poème de Michel Cozon, le temps de le retrouver. Michel Cozon. En zigzag, sur la route du zéphyr, l'oiseau bleu sème la zizanie. Il tourne en rond dans le zodiaque. Nul ne sait encore ce qu'il va devenir. C'est dans mes premières comptines, aux éditions Couleur Livre, un choix de Béatrice Libère. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien continuer et de bien finir cette journée. Et je vous dis à bientôt. I never expected.